Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous et bienvenue pour le retour de cette édition spéciale, le live mock draft du podcast Touchdown Actu avec du beau monde aujourd'hui pour définir les axes prioritaires des franchises au lendemain de la fin des inscriptions et surtout du Senior Bowl qui a réuni dans l'Alabama les meilleurs joueurs de dernière année. Quatre camarades sont en ma compagnie pour analyser les 32 franchises NFL. On va commencer dans l'ordre de sélection du jour, messieurs, et ça tombe bien puisqu'il s'agit tout d'abord de l'autre présentateur du podcast draft, l'homme allergique au running back le jeudi soir, monsieur Victor Roulier. Salut Victor.
Bonjour à tous.
Et je vais en profiter pour couper mon retour pendant ce temps-là avec cette épave d'ordinateur que j'ai à mes côtés. Ça va s'organiser comme ça. Vous l'avez peut-être aperçu également près de chez vous, avec une pancarte géante « JJ come home ». Alexandre Locke est aussi des nôtres. Salut Alex.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Et bien le bonjour également à notre expert Twitch, notre spécialiste S-receveur de la rédaction, Mehdi Julien. Salut Mehdi.
Salut à tous. Salut Greg.
Salut à toi. Et enfin, est-il encore utile de le présenter, notre expert NCA, notre puits de science high school, probablement notre encyclopédie Pee-wee pour connaître les prospects de 2045, Jean-Michel Boujard est là. Salut Jean-Mi.
Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi ? Bonjour à tous.
C'est déjà ça, on s'en contentera pour l'instant avant tes choix avisés tout à l'heure, vos choix avisés en l'occurrence messieurs. Le meilleur pour la fin bien sûr c'est Camille Saraben qu'on remercie d'être avec nous pour gérer le direct et mettre à jour les choix de draft qui seront faits dans cette émission. De mon côté je reste bien sûr attentif aux commentaires que vous pourrez laisser sur le chat en vue de cette grosseur de direct. J'essaye en tout cas d'être discipliné, j'avoue c'est compliqué de suivre tout en même temps, je ne sais pas comment Alain fait pendant les fauteuils. C'est absolument miraculeux. On salue certains habitués. Je vois Rafa Malka qui est avec nous, Bertrand Tapaz, Stepping Graal également qui était là lors du précédent live, me semble-t-il, Gus MMA, Trevor Lawrence, FanFR. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à débriefer un petit peu les choix qui seront faits par nos camarades dans cette deuxième mock draft de la saison 2021. On va donc lancer les hostilités en commençant donc par le choix le plus indécis sans doute de ce premier tour, et c'est Victor Roulier qui s'y colle. Victor, les Jacksonville Jaguars sont numéro 1 donc de la draft. Que vont-ils bien faire ? Eh bien tu les vois sélectionner un quarterback de Clemson, un joueur dont on commence à peine à entendre parler, un certain Trevor Lawrence.
Oui, ça fait à peine quelques semaines qu'il est le joueur dont on parle le plus. Non, évidemment, il n'y a pas tellement de débat à avoir et son pro dé un peu avancé de ces derniers jours n'y a rien changé. C'est le prospect le plus attendu depuis Andrew Luck, je pense, à l'époque. C'est un joueur complet. On a le premier podcast de la draft, on l'avait consacré à lui, à Justin Fields. Voilà, c'est un joueur mobile, c'est un joueur excellent lanceur. C'est vraiment un quarterback moderne. C'est un talent générationnel. Alors, est-ce qu'il réussira en NFL ? Ça, on ne peut jamais être sûr, mais en tout cas, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Et il n'y a aucune raison de ne pas le sélectionner en 1.
Quelqu'un a un avis dessus ou pas particulier? Pas, rien de bien surprenant en soi, encore une fois. Hein, on sait que pour certains, ça peut prêter à discussion, mais c'est vrai que Trevor Lawrence a l'air quand même de se dégager assez largement. Je crois que notre camarade Fan FR de Trevor Lawrence est d'accord. Chose encore plus surprenante que le choix que tu viens de faire. Mais oui, en plus, pour le coup, son pro day qui a eu lieu cette semaine n'a pas spécialement été éliminatoire. Si tant est, en fonction de l'importance qu'on accorde au pro day. Mais en tout cas, voilà, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour le quarterback des Clemson Tigers. On enchaîne donc dès à présent avec le deuxième choix qui a été fait par Alexandre. Les New York Jets sont sur l'horloge et prennent la direction également d'un quarterback, Zach Wilson, quarterback de BYU. Ce n'est donc pas Justin Fields que tu as plébiscité pour prendre la main sur cette nouvelle attaque new-yorkaise.
Oui, en effet, je pars plutôt sur Zach Wilson, pour qui j'ai une préférence dans le style de jeu par rapport à Justin Fields. Bon, pourquoi un quarterback? Je pense que l'expérience Sam Darnold est terminée. Malgré le changement de staff, je le vois pas continuer. Donc, je pense que Mike LaFleur, en coordinateur offensif, aura plutôt tendance à préférer le style de Wilson. Et pourra davantage s'exprimer. Voilà. Après, c'est purement un choix, un goût personnel. Voilà. Il y a pas. Je pense que la progression, la marge de progression et le plafond de Wilson sont plus élevés. Mais voilà. C'est pour ça que je pense que c'est la bonne personne pour relancer les Jets.
Ouais. C'est dommage qu'on ait pas eu de combine parce que je pense que ça aurait été. Alors, je sais pas si. On se serait plus arrêté sur un Lawrence Fields en l'occurrence pendant le combine. Et c'est vrai que là, on part de plus en plus sur un espèce de duel pour le deuxième spot entre Fields et Wilson, qui présente en effet des caractéristiques différentes avec en effet peut-être un profil plus athlétique, un joueur en tout cas qui crève beaucoup plus l'écran depuis plusieurs années, en l'occurrence Justin Fields. Et c'est vrai, un joueur comme Zach Wilson, qui, à mon sens, a quand même affiché une progression un peu plus constante. Je trouve, Justin Fields, ça reste un an et demi, alors qu'avec en plus une demi-saison assez inconstante. Et c'est vrai qu'il faudra suivre ça, parce que c'est là où on va voir éventuellement dans quelle direction veut aller Robert Saleh, son nouveau coordinateur offensif, Mike LaFleur. Mais en tout cas, ça peut très bien rentrer dans la préférence du système, on va dire. Le fait d'avoir un joueur comme Zach Wilson a développé encore une fois dans la première année d'une nouvelle ère du côté des Jets. Le troisième choix, désormais fait par Mehdi, qui a donc choisi pour les Miami Dolphins, et on est sûr que ça lui a fait beaucoup plaisir, Penei Sewell, offensive tackle d'Oregon. Les Dolphins qui vont donc sur un tackle pour la deuxième année de suite. Qu'est-ce qui te plaît avec ce pick, Mehdi?
Je trouve que c'est le meilleur vraiment all-line de toute la draft. Je le trouve vraiment au-dessus. Il a joué tous ses snaps en left tackle à Oregon. Et franchement, avec l'arrivée du nouveau coordinateur offensif, je pense qu'il faut mettre Tua en confiance. Et avoir un tackle aussi dominant, on va dire, permet de satisfaire Tua et voir aussi ce que va préparer le coordinateur offensif. Après, moi, j'ai mis des petites comparaisons. Après, c'est des comparaisons perso entre chaque joueur. Et moi, je le compare un peu à Taylor Lewan. Donc, après, très technique, très puissant. Et après, à voir comment il va s'adapter au schéma de jeu des Dolphins. Mais franchement, j'ai pas d'inquiétude à son sujet.
Très bien. Je regardais un petit peu vos avis sur le chat. Alors là, on n'est pas sur les choix les plus cornéliens, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on reste sur le haut du plateau avec certains joueurs qui se dégagent. Il y a Grégory C, notamment sur le chat, qui disait oui, en effet, ça reste difficile entre Sewell et un receveur. Là, on est un peu sur la politique peut-être du meilleur joueur disponible contre un besoin quand même plus ou moins urgent pour les Dolphins. Même si on sait qu'ils ont déjà Devante Parker sur le poste, ils ont aussi Austin Jackson qui n'a pas fait une mauvaise saison rookie, ils ont de la profondeur sur le poste de lineman, mais c'est sûr que c'est difficile de laisser passer un prospect aussi intéressant que Penei Sewell, encore une fois comme tu l'as dit, pour protéger efficacement un Tua Tagovailoa qui reste malgré tout relativement fragile et qui va avoir besoin d'être rassuré pour donner sa pleine mesure en NFL. Victor, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais juste rajouter qu'une des questions qui peut se poser si jamais Sewell est pris à la place d'un receveur, par exemple, parce qu'en effet, d'une manière ou d'une autre, tu as, mais comme tu as est gaucher, est-ce que du coup, tu fais jouer Sewell à gauche ou est-ce que tu fais jouer Sewell à droite? Moi, personnellement, du coup, je ferais jouer à droite. Après, à voir dans les process d'entretien si lui considère qu'il se sent à l'aise sur ce côté-là, mais pour moi, tu mets le meilleur tackle sur le côté aveugle.
Ouais,
Si vraiment tu prends Sewell, tu le mets à droite et tu laisses Jackson à gauche.
c'est une possibilité. Je regardais Gangémis sur le chat qui nous dit on est vraiment certain que ce sera Tua le QB des Dolphins. C'est sûr qu'il y a toujours les rumeurs autour de Deshaun Watson, où a priori les Dolphins ont et les choix de draft et éventuellement des choix défensifs qui pourraient faire pencher la balance en leur faveur. Mais pour l'instant, en tout cas, on planifie toujours cette draft dans l'optique d'avoir Tua, quarterback des Floridiens. On passe au quatrième choix. À présent, les Atlanta Falcons. Jean-Michel Boujard a une grosse, grosse responsabilité sur les épaules. Et tu as pris cette décision d'aller sur un quarterback, Justin Fields, QB d'Ohio State. Pourquoi cette direction, mon cher Jean?
Parce que la draft, avec un choix aussi haut, bien sûr, tu peux penser à améliorer le présent. Donc, Atlanta, ils ont des besoins de défense. Mais c'est aussi penser à l'avenir. Un quarterback comme Justin Field, il a vraiment un très, très gros potentiel. Donc, Matt Ryan, si tu considères son âge, si tu considères son contrat, a priori, il a encore deux belles saisons à faire à Atlanta. Mais après, tu fais quoi? Or là, tu prends déjà Field. En plus, tu le prépares, tu peux le modeler sur les petits défauts qu'il a encore. Et dans 2 ans, tu as à nouveau un quarterback de top niveau. Et c'est ça qui assure la pérennité d'une franchise. Donc pour moi, plutôt qu'un défenseur, surtout que cette année, il n'y en a pas un qui se détache vraiment. C'est pas comme si on avait un Myles Garrett ou un Chase Young. Donc du coup, pour moi, le choix évident, si Fields est toujours disponible, c'est Justin Fields.
Oui, ça s'entend encore une fois. En plus, oui, géorgien en l'occurrence, hein, Justin Fields. Donc, parce qu'en l'occurrence, il s'était initialement annoncé du côté de Georgia avant de décider de transférer pour Ohio State. Donc, il y a une forme de suite logique, pardon. Après, oui, c'est sûr que ça peut s'entendre. Et en effet, s'il n'y a pas de trade down possible, mais là, en l'occurrence, on n'évoque pas cette possibilité-là aujourd'hui, c'est compliqué d'aller sur un défenseur sur cette position-là. Donc, ça peut clairement s'entendre, en l'occurrence, comme choix que Justin Fields rallie les Falcons pour l'après Matt Ryan. On passe au choix numéro 5, messieurs, les Cincinnati Bengals sur l'horloge. Victor, tu t'y es collé. Rashawn Slater. J'allais dire tackle, mais en tout cas, homme à tout faire de la ligne offensive
Ici, tackle.
de
Moi, je le prends en
Northwestern.
tant
Oui,
que
là, en
tackle.
l'occurrence, tu le vois plus comme un tackle.
Oui, bah, la grande discussion, la priorité, c'est protéger Joe Burrow. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On l'a tous vu cette saison. Il faut faire quelque chose. La discussion, c'est Sewell ou Slater. Bon, finalement, Mehdi m'a simplifié la tâche. Il en reste un des deux. Donc, c'est Rashawn Slater. C'est un joueur qui est certes un peu petit, ce qui il a un physique qui fait que certains l'ont considéré comme un guard, mais en réalité, c'est un excellent tackle. Et je me fais pas de soucis pour lui. Il va être un des meilleurs de cette QV sur la position. Et je pense qu'il a une énorme marge de progression. Comme beaucoup de joueurs, il a opt-out. Donc, c'est vrai qu'on a perdu un an de visibilité sur le joueur. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pour moi le tackle numéro 2. Et du coup, ça fait sens de protéger Joe Burrow avec le meilleur joueur disponible.
C'est sûr. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais alors, est-ce que ça fait pas un peu doublon avec Jonah Williams en termes de profil, ce côté un peu tackle à tout faire, ça t'inquiète pas plus que ça?
Bah, Jonah Williams, j'attends de voir un moment sur le terrain, quoi, parce que je veux bien, mais bon. Ben, à part à l'infirmerie, il n'y a pas d'endroit où il est titulaire en ce moment. Mais bon.
C'est sûr. Jean-Mi, tu veux dire quelque chose sur Rashawn Slater et ce choix de Victor?
Oui, c'est un très bon joueur, mais franchement, moi, si tu pars sur un tackle, j'aurais pris Christian Darrisaux. Il me donne beaucoup plus de certitude en tant que left tackle pour la protection, avec son envergure, avec sa mobilité. Franchement, enfin, moi, je préfère largement Darrisaux à Slater.
Mais on en a parlé il y a un petit quart d'heure, toi et moi, parce qu'on prépare la prochaine mission draft. Moi, j'ai même pas d'Arisso en tackle numéro 3, donc pour moi, la question ne se posait pas.
Bon.
Ah, donc il n'y a pas que les running backs que tu n'aimes pas. C'est moi, ça.
Non, mais il est 4, il est 4. C'est bien 4, mais j'ai juste un joueur que je considère comme étant meilleur que d'Arisso.
Oui, non, non, j'entends bien, j'entends bien. On demande s'il a les mains violentes, Rashawn Slater.
Oui, ah bah oui. Ah oui, pour le coup, des bonnes mains violentes comme vous avez aimé.
Et niveau tackle, je pense qu'il y a quelques distributeurs de tartes cette année.
Ah ouais.
On va pas
Oui.
être déçus, on
Il n'y a
n'aura
pas
que
que
ça
des
d'y revenir.
gentils, ouais.
C'est ça. Et certains qui sont d'accord avec Jean-Michel, Steppingral notamment.
Non, mais ça se
Mais
défend, hein.
oui,
Honnêtement,
non,
ça se
voilà. Mais
défend.
de toute façon, ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Mais bon, encore une fois, plus sérieusement, il y a une belle classe de linemen offensif, notamment de tackle. Donc, je pense que ce sera très intéressant à débriefer d'ici la fin du mois d'avril. On passe au choix numéro 6, Alex, les Philadelphia Eagles. Allez, punis-nous, Victor Roulier.
Un running back.
Tu pars sur un joueur offensif, c'est déjà une bonne nouvelle pour les Eagles. Ja'Marr Chase, receveur d'élection, pardon, sur un deuxième receveur en 2 ans pour les Eagles. Qu'est-ce qui te plaît concernant Ja'Marr Chase et du coup le fit avec les Eagles?
Alors, Ja'Marr Chase, pourquoi Ja'Marr Chase? J'avais évoqué lors d'une émission, ce qui me gênait un petit peu, c'était son opt-out cette saison. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir davantage et confirmer. Avec peut-être un autre quarterback que Joe Burrow, parce que l'année dernière c'était football champagne, cette année ça aurait peut-être été autre chose. Mais je pense quand même que pour les Eagles, c'est le meilleur choix possible pour relancer Carson Wentz s'il reste, ce qui n'a pas l'air d'être la tendance, ou pour aider Hurts à s'envoler vers les sommets.
Tu nous vends du rêve,
On
c'est
a
bien.
déjà. On a des... Pardon?
Tu nous vends du rêve à
Il
s'envoler
faut,
carrément. Là,
il faut, il
là j'ai
faut.
vu Victor
Bah,
planer, là.
il y a Victor dans
Ah
l'équipe, je suis
bah,
obligé.
là, je rêve de Super Bowl, là, hein.
Voilà. Donc, avec Chase, on a un profil vraiment complet qui peut répondre à tous les besoins en termes de cibles qu'ont les Eagles. On a Ray Agor déjà sur un plus explosif et un plus petit et plus rapide. Chase a cet avantage d'avoir un arbre de tracé très, très large et il est très fiable. Et je pense que c'est ce dont ont besoin les Eagles aujourd'hui. Successeur probablement de Jeffrey, qui je pense est sur le départ. Donc voilà, avec le choix numéro 6, je ne pense pas que ce soit trop haut pour un receveur de cette envergure-là.
Ah bien.
Qu'en pense Victor?
Ouais,
Ben,
Victor, bah,
moi,
du coup, ton avis,
j'aimais
ouais.
bien la suggestion de Benjamin Loche qui proposait de drafter
Général
un
manager.
general manager avec le sixième choix. Moi, ça me va très bien. Non, en réalité, je pense que c'est le bon choix. On a globalement, à part les Bears, je vois pas qui a un pire groupe de receveurs pour l'année prochaine.
Les Patriots.
Ouais, les Patriots, ok. Enfin bon, voilà, on est 3-4 équipes au fond du seau. Je pense que c'est indispensable. Et après, au niveau du profil, je pense que Ja'Marr Chase est ce qu'il faut. Sean Jeffrey va être cut post-June, comme on dit. Donc, c'est une façon de cutter un peu différente. Mais bon, il sera plus dans l'effectif. Et globalement, on espère toujours que Ray Agor explose. Et du coup, ce qu'on a, on a plus besoin d'un physique imposant comme celui de Chase que d'un joueur comme Devonta Smith. Donc, moi, ça me va. Ça me paraît le choix le plus logique. Après, on peut se diriger vers les tackles, vers la défense, mais ça me paraît le choix le plus logique.
Ouais, très clairement. Je regardais un petit peu. Alors, on nous parle d'un quarterback pour Philadelphie. Après, une fois que les 3 premiers sont passés, avec le 6e choix, c'est peut-être un peu haut.
Ouais, et puis il faudrait
Faut
déjà
être convaincu
savoir
par Calais
quelle sera
aussi.
la situation au niveau des quarterbacks à Philadelphie, parce que bon.
Voilà. Ahmed qui nous dit Wentz a été mal protégé aussi. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais là, en l'occurrence, on peut quand même espérer qu'il y ait un petit peu de retour à ce niveau-là côté Eagles.
Oui, bah, y a ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont passé la plupart de la saison avec 4 titulaires sur 5 blessés. Donc, on ne va pas faire le live sur les Eagles, mais en tout cas, c'est vrai que la ligne était à 80% remplaçante toute la saison. Vous avez vu des Chiefs au Super Bowl? Bah, nous, c'était ça toute la saison.
Voilà qui est dit. On parlait du fait de choisir Ja'Marr Chase à la place de Devonta Smith. Et ben du coup, ça laisse une voie royale pour les Lions et Mehdi donc qui a sélectionné Devonta Smith. Choix assez logique en l'occurrence, le prospect d'Alabama pour une équipe en manque de receveurs.
Oui, même si au départ, je n'étais pas parti sur lui, mais j'étais parti sur Rashawn Slater pour améliorer la ligne offensive parce que je la trouve très pauvre du côté des Lions. Mais après, Devonta Smith, entre les deux, entre Ja'Marr Chase et Devonta Smith, j'ai une petite préférence pour Smith, mais après, c'est vraiment préférence perso. Après, je le trouve exceptionnel comme receveur. Je pense qu'il peut devenir vite un receveur numéro un, voire vraiment une star d'une attaque. Après, franchement, juste qu'il. Je pense qu'il faut qu'il se muscle un petit peu. Contre les cornerbacks très physiques, ça va être compliqué, je pense, au début. Je ne sais pas s'ils vont jouer, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais si par exemple ils rencontrent un Stephen Gilmore des Patriots, ça risque d'être compliqué. Au moins, en tout cas, parce que comme Gilmore est à 95% sur de la presse, ça risque d'être très compliqué pour lui au début. Mais par contre, là, dès qu'il sera en zone, c'est champagne pour lui. Il va se régaler.
Ouais, Ganjmi qui nous dit surtout Galloway est partant, il me semble. Leurs trois receveurs sont free agents. Oui, hein.
Ils sont tous. Oui.
Marvin Jones aussi.
Danny Amendola également. Hein.
Voilà.
Donc leur star actuellement est Quintez Cephus, pour ceux qui se rappellent de la draft de l'année dernière. Donc voilà. Mais non, pour rejoindre ce que tu disais, Mehdi, voilà, c'est vrai que tout dépend aussi du rôle qu'on veut lui donner. C'est sûr que si on attend Devonta Smith qu'il soit numéro 1, ça peut éventuellement prendre un peu plus de temps, en effet, dans le côté pour vraiment mettre à mal les cornerbacks, même si on sait qu'il a la capacité de tracer et qu'il peut être dangereux dans n'importe quelle zone. Ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts, et en tout cas dès le début de cette toute première saison, si on attend qu'il soit le go-to guy en chef.
Par exemple, s'il va se coltiner deux fois par an déjà, Jaire Alexander. Je pense qu'en receveur numéro 2, ça sera très bien, mais après il peut devenir receveur numéro 1 très très vite.
Ouais. Quentin Doppler qui nous dit où sont les défenseurs. C'est vrai que pour l'instant, que des choix offensifs sur les 7 premiers, et ça va continuer d'ailleurs avec le 8e choix, 8e choix pardon, réalisé par Jean-Michel, qui a donc choisi pour les Carolina Panthers Christian Dariso. Tiens, il me semble que tu nous as parlé tout à l'heure. Offensive tackle de Virginia Tech. Donc, on était parti sur un draft exclusivement défensif, me semble-t-il, l'année dernière, de la part de Carolina. Là, on démarre du coup avec un attaquant, pour protéger Teddy Bridgewater, du coup.
Oui, c'est ça. C'était ça l'hésitation, en fait. C'était on protège Teddy Bridgewater ou on prend un quarterback. J'estimais que c'était un poil haut pour Trey Lance, même si c'est toujours possible. Et puis, il y a toujours un scénario possible de retour en fin de premier tour pour mettons Mac Jones, que Matt Rhule a entraîné au Senior Bowl. Donc, je pensais que la priorité, c'était de remplacer Russell Okung, parce qu'ils ont un très bon tackle droit avec Tyler Moton, qui vont sans doute re-signer. Mm-hmm. Mais à gauche, ben, Okung, déjà, il est tout le temps blessé. Et il leur faut vraiment un protecteur. Et Christian Derosso, c'est que ça. Moi, il me fait beaucoup penser, attention, à Ronnie Stanley des Ravens. C'est-à-dire très fort en protection, en même temps il est puissant pour le jeu de course. Pour moi, ça va devenir un des meilleurs tackles offensifs des prochaines années. Donc voilà, hésitation entre Lance et Dariso, mais Dariso.
Ouais, c'est ça. La question, c'est qu'il va falloir éventuellement prioriser les besoins. C'est sûr qu'il y a quarterback, il y a. Bon, moi j'avais vu tight end éventuellement, mais ça, encore une fois, c'est clairement pas la priorité si on se passe du côté de l'attaque. Un corner aussi, mais c'est vrai que voilà, tackle, en effet, il y a des linemen qui sont free agent, en effet, un Russell Okung qui n'est pas en très très bon état, mine de rien, au fil des années. Donc, ouais, ça se comprend et ouais, c'est difficile de passer à côté d'un prospect comme Christian Dariso. Je te rejoins là-dessus. J'en profite juste pour faire une petite pause. J'essaie de voir un petit peu. On a Raphaël Masmejean qui est avec nous, je le savais, c'est formidable Raphaël qui devient un spécialiste de la draft et on le salue bien bas. Je vais regarder juste avant de jeter un petit coup d'œil, j'en profite pour vous rappeler qu'avec le Super Bowl et la fin de la saison, les podcasts draft continuent massivement sur les antennes de Touchdown Actu avec prochainement deux podcasts hebdomadaires à venir sur le site, j'ai bien dit deux. Le premier que vous connaissez déjà, où vous aurez des comparaisons de prospects, des fits parfaits pour les franchises, les pépites attendues hors des trois premiers tours et des débats à venir. Le deuxième, vous le connaissez aussi en partie, car il s'agira notamment des previews poste par poste à partir du mois de mars. Les têtes d'affiche, les valeurs sûres, les busts de la rédaction. Un rendez-vous régulier notamment pour vous permettre d'avoir toutes les cartes en main d'ici le 29 avril prochain. Après cette petite parenthèse, ouais, c'est vrai, on nous dit ouais, est-ce que Matt Rhule croit vraiment en Teddy Bridgewater. C'est sûr que ce n'est pas le message qui avait été sous-entendu par Matt Rhule à la fin de la saison, en tout cas, mais c'est vrai que voilà, là, c'est sûr qu'à l'instant T, encore une fois, il y a beaucoup de dossiers un peu brûlants concernant les postes de quarterback, principalement, on l'a dit, Deshaun Watson ou Carson Wentz. Nul doute que les Panthers, à mon avis, sont dans certaines négociations, mais voilà, à l'instant T, en tout cas, si. On part du principe qu'un quarterback, c'est peut-être un petit peu haut. Ça se comprend la logique d'avoir un tackle pour protéger efficacement Bridgewater. Ou un autre, en l'occurrence, d'ici là. On passe au 9e choix, réalisé par Victor, les Carolina Panthers. Et s'agirait-il de notre premier
Non, pas les Carolina Panthers. Panthers, c'est Panthers,
Denver Broncos, pardon, je suis resté
Denver
sur les
Broncos.
Je fais une fixette, c'est incroyable. Les Denver Broncos, le premier défenseur donc, de cette mock draft. Il s'agit d'un cornerback, Caleb Forley, autre joueur de Virginia Tech, deux joueurs des Hokies de suite. Et ça répond quand même à un besoin du côté de cette équipe du Colorado qui, à l'instar de Carolina, du coup, ne partirait pas sur un quarterback.
C'est ça, c'est ça. Ça rejoint un peu la discussion du dernier podcast. C'est vrai que tu parlais un peu de la chasse au quarterback. Je pense que des Dolphins, avec le choix numéro 3, ils vont avoir des appels de toutes ces équipes-là. Donc, peut-être qu'une de ces équipes ira récupérer un top quarterback. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas suffisamment confiance en Trey Lance pour le prendre en 9e choix. Il y a une attaque des Broncos qui est complète partout. Alors oui, Drew Locke, ce n'est pas extraordinaire. C'est moyen. Mais honnêtement, est-ce que Trey Lance, c'est tant un upgrade ou une amélioration, pardon? Je ne suis pas sûr. Donc, pour l'instant, je ne veux pas prendre ce risque-là. Et il y a une défense à reconstruire. Honnêtement, j'ai hésité entre Kwity Paye, le edge, et Caleb Farley, le cornerback. Comme aujourd'hui, on ne sait pas ce que va devenir Von Miller. On ne sait pas si l'option va être prise. Je crois que c'est une option à 17 millions de têtes. Pour l'instant, j'ai privilégié cornerback qui est presque devenu aussi important que edge dans la NFL moderne. Et j'ai pris celui qui, pour moi, était le plus gros potentiel, Caleb Farley. Je sais que certains, dont Jean-Michel, je crois, préfèrent Patrick Surtain, qui est peut-être plus rassurant. Moi, j'ai envie de prendre le risque avec Farley, qui, malgré son opt-out, est pour moi le plus gros talent. Alors oui, il y a un potentiel bust, mais il y a un potentiel all-pro aussi, et j'ai envie de prendre le risque.
Ouais, ça. On va dire que la différence fondamentale entre Forley et Surtain, c'est le fait que l'un ait fait l'impasse sur la saison 2020, donc en l'occurrence Forley. Il joue quand même un peu là-dessus. Après, je ne sais pas si d'un point de vue physique, il me semble qu'il est un peu plus fragile. Et en tout cas, il s'est un peu plus blessé durant son cursus, mais non, ça peut s'entendre. Encore une fois, c'est vrai que je pense que Vic Fangio aime bien les cornerbacks de ce profil-là, donc il y aura une certaine logique. C'est vrai qu'il y a Flo07 également qu'on salue, qui s'interrogeait sur voilà, est-ce qu'on partirait plutôt sur Farley que sur Surtain. Le destin des deux hommes va être plus ou moins lié, je pense, dans cette classe. Ils ne vont pas être très, très loin. D'ailleurs, dans cette mock draft, ils sont à un pic d'écart, puisque Alex a fait son choix désormais pour les Dallas Cowboys. Et c'est également un cornerback. C'est donc Patrick Surtain, deuxième du nom, corner d'Alabama. Besoin prioritaire avec des agents libres également sur le marché.
Oui, besoin prioritaire. Alors, j'avoue que j'ai hésité avec un tackle, vu la situation de Tyron Smith. Par rapport à son historique de blessures et son contrat, mais la défense des Cowboys, c'est vraiment pas possible. Donc je suis parti sur, pour moi, le meilleur défenseur disponible sur mon board, Patrick Surtain d'Alabama. C'est un joueur super fiable, trois années d'expérience avec Alabama, champion en titre cette année. Il n'est pas aussi rapide que Farley dont on vient de parler, mais il présente tous les atouts, et il est tout ce qu'il y a de plus rassurant pour une défense en besoin de certitude, justement. Et comme tu l'as dit, il y a quelques agents libres. Donc l'année dernière, ils ont drafté Diggs au deuxième tour. Bah, on va lui mettre son ancien coéquipier de l'autre côté, et on va essayer de recréer le second rideau d'Alabama. Je pense que c'est la meilleure solution pour les Cowboys avec leur premier pick.
Ouais, on nous parle beaucoup de pass rusher sur le chat. Encore une fois, je ne sais pas si dans le top 10, un pass rusher, ce ne serait pas un peu risqué.
Il y avait cette option-là, mais ils ont Demarcus Lawrence, à qui ils ont fait signer un énorme contrat. Il y a Aldon Smith, qui a été plutôt pas mal cette année pour son retour, qui devrait peut-être continuer l'aventure. Randy Gregory, c'est un petit peu près pareil. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le besoin numéro un. Je dis pas que c'est pas à considérer, mais pas forcément au premier tour.
C'est ça. Non, mais voilà, il y a de la profondeur malgré tout. Encore une fois, il n'y a peut-être pas de star méga établi dès la première année, mais je pense qu'il y a quand même quelques bonnes affaires à faire sur le poste de edge rusher. C'est aussi en cela où je comprends ta logique de renforcer un poste de cornerback qui a été en difficulté et qui, en effet, va avoir pas mal de joueurs vraisemblablement quitter le navire pendant l'intersaison. On reste dans la NFC Est à présent avec le choix de Mehdi qui concerne les New York Giants avec un receveur, l'autre receveur d'Alabama, Jalen Waddle. Dis-nous un petit peu ce qui t'a emmené sur cette piste, Mehdi.
Je pense qu'il faut aider quand même ça. Daniel Jones, je ne sais pas s'il va rester longtemps en tant que QB1 des Giants, mais les receveurs un peu à la Tyreek Hill, explosifs, petits, rapides, c'est des appuis de feu, c'est à la mode en ce moment. Et je pense que ouais, Jalen Waddle, ça peut être. J'espère pour lui qu'il aura une carrière à Tyreek Hill, mais ça peut devenir le nouveau Tyreek Hill. Franchement, pour enflammer les défenses et même rassurer, pas faire beaucoup de screen pass sur lui, des petits jeux courts qui peuvent bonifier les yards après la réception, ça peut être très très utile pour Daniel Jones et l'attaque des Giants.
Ouais, très clairement. On sait que bon, alors il y a eu quelques petites prises de risque, notamment pardon, sur la finale nationale, où on sait que Jalen Waddle a voulu participer à l'aventure et sorti un petit peu en boitillant sur certaines phases de jeu. Hein. Donc voir si ça peut lui être préjudiciable. Je vois sur le chat, je crois que c'est Ludovic notamment qui nous proposait Kyle Pitts. Alors on sait qu'il y a Evan Ingram qui est toujours là, mais qui est free agent l'année prochaine. C'est là encore une fois où il faudra voir la direction qui va être privilégiée par Joe Judge. Jalen Waddle, en l'occurrence, ce sera un besoin immédiat. Kyle Pitts, ouais, ce serait peut-être pour avoir un combo de tight end et pour mettre un petit peu la pression sur Ingram en l'occurrence. Mais ouais, non, c'est.
C'est pas un besoin immédiat, je trouve.
Ouais, bah, après, quand on voit que les Giants ont frôlé les playoffs, même dans la NFC Est, avec l'attaque qu'ils avaient, voilà, on se dit que la défense peut pas sans arrêt faire le boulot non plus et qu'il faut de toute façon rajouter clairement des playmakers. Ce sera ou une cible ou de la ligne offensive a priori. Là, en l'occurrence, vu les choix qui ont déjà été faits, Jalen Waddle, ce serait tout sauf étonnant en l'occurrence. On passe au choix numéro 12 à présent, qui vont intéresser pas mal de nos auditeurs. Les San Francisco 49ers sont sur l'horloge et Jean-Michel Boujard retourne en défense avec un cornerback de South Carolina. On a parlé de Patrick Surtain, c'est un autre fils d'eux qui est sélectionné. JC Horn, donc le cornerback des Gamecocks, qui prend la direction de la Californie, Jean-Mi.
Ouais, je me demande si c'est pas mon cornerback préféré de cette draft, en fait. Parce que pour le définir en une image, c'est un pot de colle. Voilà, c'est un pot de colle des receveurs. Il joue très physique sur la ligne d'engagement. Dès les 5 yards, il envoie les mains, il bouscule. Ensuite, il a suffisamment de vitesse pour suivre le receveur sur une vingtaine de yards. Il a une bonne détente, il est toujours au contact, il a une bonne lecture. Il est vraiment impressionnant. Déjà l'année dernière, il avait été un petit peu dans l'ombre de Mokuamu, mais des gens l'avaient vu. Et alors cette année, en 2020, il a crevé l'écran. Et quand tu vois les 49ers, ben Sherman est agent libre, Verrett aussi. Dans la division, ils ont quand même quelques receveurs, notamment des physiques comme Metcalf, et Jesse Horn leur ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Oui, non, non, très clairement. Il a vraiment progressé, comme tu le disais, au fil des années, au point de devenir vraiment un top corner numéro un. Alors après, il était déjà arrivé à South Carolina avec une belle réputation. Mais c'est vrai, en effet, qu'il est vraiment monté en puissance pour vraiment être performant dans une conférence SEC qui, on a tendance à l'oublier, hein, a beaucoup de gros poissons en son sein et qui a surtout un jeu de plus en plus axé sur l'attaque aérienne. Donc, c'est sûr qu'en l'occurrence, ça permet de se faire la main et de voir un petit peu de quoi les cornerbacks de la conférence sont faits. Et on a pu en avoir un bel aperçu avec JC Horn, en l'occurrence. J'essaie de voir rapidement. Je vois pas trop de. Vincent qui nous dit je veux Horn aux Colts. Ils sont un peu plus bas quand même, les Colts. Va falloir se battre, va peut-être falloir trade up en l'occurrence pour éventuellement aller le chercher parce que c'est vrai qu'il commence à jouer d'une belle, belle cote. Notre ami JC Horn, on parlait d'une belle classe de tackle tout à l'heure, et ben, on va poursuivre sur la lancée avec un quatrième tackle sélectionné sur les 13 premiers choix. Les Los Angeles Chargers et Victor Roulier sélectionnent Liam Eikenberg de Notre-Dame. J'imagine que c'est ton autre tackle qui est devant Christian Darrisaux.
Exactement, exactement. Alors, j'ai pourtant hésité à prendre un autre tackle parce que c'est pas exactement le profil que je voudrais idéalement pour les Chargers, compte tenu des schémas de jeu. Mais je pense que c'est un trop gros talent pour passer à côté. Il faut protéger Justin Herbert. On l'a bien vu l'année dernière, qu'il a besoin d'aide. Il a déjà fait des miracles sans protection. Alors, que peut-il faire avec protection? Ça, c'est la question à laquelle il va falloir répondre. Et je pense que, voilà, Liam Eikenberg, il va aider pour la protection de passe. Il va aussi aider pour le jeu de course. Et ce n'est pas à exclure que, justement, pour soulager parfois Herbert, on développe plus ce jeu de course qu'il ne l'a été cette année. C'est un monstre physique. Il enfonce les défensives end en face assez facilement. Il va créer des gros espaces pour les coureurs. Et voilà, je pense que c'est vrai que c'est un joueur qui apportera peut-être encore plus au jeu de course qu'au jeu de passe, ce qui est un peu paradoxal quand je parle de protéger Herbert, mais c'est un tel talent que je ne me vois pas sélectionner quelqu'un d'autre. Après, voilà, je pense que c'était ça, ou alors se dire, allez, riche pour riche, je prends un Kyle Pitts pour donner encore une cible de qualité à Justin Herbert. Mais je pense que le protéger est quand même plus important.
Non, parce que Hunter Henry est de nouveau agent libre. On sait qu'il avait été tagué l'année dernière.
Exactement.
Mais bon, ça continue malgré tout de rester un profil assez fragile. Et bon, quand tu peux avoir une machine à match-up gagnant avec Kyle Pitts, c'est sûr qu'en effet, ça peut faire saliver aux côtés d'un Justin Herbert. Et en effet, Liam Hackenberg, voilà, on l'a dit, grosse capacité de passe pro cette année du côté de Notre-Dame. Encore une fois, sur le jeu au sol, il n'a pas démérité non plus, loin de là. C'est presque à se demander s'il serait mieux à gauche ou à droite. Je ne sais pas. J'avoue que sa mobilité par rapport à d'autres m'interroge un peu plus. Mais très franchement, voilà, ça a largement le niveau pour jouer tackle côté aveugle en NFL. Je te rejoins assez largement et du coup, ça peut légitimer très clairement son 13e choix. Globalement, on est d'accord en tout cas sur le chat sur le fait de protéger Justin Herbert. Je pense qu'on pourra difficilement aller à l'encontre de cette déclaration quand on voit déjà la saison folle qu'a fait l'ancien quarterback d'Oregon, avec pourtant une ligne offensive pour le moins délicate. C'est moins qu'on puisse dire. On passe au 14e choix. Et alors, je ne salue pas vraiment Alex. C'est pas beau ce que tu as fait, Alex. Toi qui choisis pour les Minnesota Vikings. Le rival de division. Et tu leur donnes le nouveau Dion Jordan. Bon, j'exagère. Gregory Rousseau, donc head rusher de Miami du côté de Minnesota. Alors, au-delà de la blague, hein, parce qu'après, on a nos préférences perso pour le joueur ou pas. En l'occurrence, il y a une certaine logique quand on sait que du côté du pass rush de Minnesota, il y a quand même des besoins en cette intersaison.
Oui, alors, j'étais pas parti sur un défenseur au départ, mais je me suis fait couper l'herbe sous le pied, parce que je pensais plutôt renforcer la ligne encore. Mais voilà, tous les tackles qui pour moi méritaient d'être dans le top 15 sont partis, donc je me retourne vers le deuxième besoin pour moi primordial des Vikings, donc tu l'as dit, le pass rush. Cette année, ils ont été privés de Hunter et on a bien vu que, à l'opposé, ils n'avaient aucune solution. Donc pour moi, Rousseau, on verra si c'est un bust ou pas, mais c'est le meilleur edge sur mon board. Il y aura peut-être débat avec mes collègues, mais il a le gabarit, il a opt-out cette année, il n'a qu'une année d'expérience, mais quelle année, l'année dernière, fantastique avec son équipe, avec presque 20 sacs, il me semble, de mémoire. Donc je pense que
15 et demi.
Voilà. Autant pour
et ça vaut pour 20 dans la saison.
Ouais.
Voilà. Non, ça vaut pour 10 si tu joues dans une vraie conférence. Mais...
Bon, quoi qu'il en soit... C'est pas effectivement pour les Packers, c'est pas forcément un pass rusher de plus chez les adversaires, c'est pas forcément la meilleure nouvelle. Mais pour les Vikings, je pense que c'est la meilleure option sur une ligne qui a besoin vraiment de renfort. J'aurais pu aussi aller sur l'intérieur de la ligne, mais j'ai personne. Ça fait un petit peu haut 14 pour piquer à cet endroit-là. Donc voilà, je reste sur Rousseau et puis on verra.
Après, je taquine sur le côté de Dion Jordan. Physiquement, il y a quand même, je trouve, ce profil justement à la Danny Hunter. Hein. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il peut plaire à Mike Zimmer. C'est pas déconnant. C'est defensive end, encore une fois, extrêmement polyvalent à qui on peut demander énormément de choses. C'est sûr que forcément, on a un échantillon d'à peine un an, malgré tout, même si forcément, ça a décoiffé. C'est difficile de savoir si dans la grosse défense de Miami, ça n'a pas aussi boursouflé ses stats. Mais oui, en effet, il y a quand même une belle base sur laquelle travailler, ne serait-ce que sur le profil athlétique. On rappelle que c'est quand même un ancien receveur qui a réussi à se mouvoir et être performant en termes de pass rush. C'est pas donné à tout le monde, donc ça peut quand même être un profil assez intéressant pour les Vikings. J'essaie de voir un petit peu. On nous demandait, hein, Geoffrey, qui nous disait que faire de Cousins. Alors, encore une fois, il y a quelques quarterbacks potentiellement sur le papier, mais est-ce que c'est vraiment la franchise qui a le plus besoin à l'heure actuelle de changer de QB? Rien n'est moins sûr, surtout qu'on a vu que la connexion Cousins-Jefferson avait été assez prometteuse en 2020. Donc, sait-on jamais. Après, voilà, est-ce que c'est celui qui peut amener les Vikings au Super Bowl? Je pense que je ne serais peut-être pas le seul à être extrêmement mesuré sur ce sujet-là, même si en l'occurrence, à l'époque, il avait été signé dans cette optique.
Moi, ça ne me paraîtrait pas improbable. Hein. Enfin, on peut ne pas aimer Cousins s'il y a un match ou deux où il pète les plombs. Mais ça reste un top 15 QB.
Et il y a un moment défaut de l'équipe.
Il y a un moment, honnêtement, l'année dernière, c'est la défense hein, qui fait tomber cette équipe. C'est pas l'attaque. L'attaque, elle fait le boulot. s'ils loupent leur saison, c'est à cause de la défense. Donc, à un moment,
bon, un peu
c'est
la
vraiment
ligne,
pas
même.
A priori.
Un peu la ligne, quand même.
Oui,
comme
non,
d'hab.
Mais ce que je veux dire, c'est que Cousins, il a fait, franchement, regardez ses stats. Hein.
Oui,
on,
oui,
on
non,
peut
je
lui
suis...
tomber dessus, mais il a une très bonne ligne de stats. Globalement, il a fait une bonne saison.
Ouais. Je pense qu'on a quand même retenu, enfin moi en tout cas, plus le début de saison qui a été un petit peu délicat. Ouais. C'est sûr qu'après, encore une fois, il s'est bien repris. Ouais. On peut pas non plus dire qu'il a été le point faible principalement de cette équipe de Minnesota. Et parlant de quarterback, que vois-je ? Un QB sélectionné en 15e choix par les New England Patriots. Le nouveau Tom Brady est arrivé à Foxborough. C'est ce que nous annonce Mehdi.
Non, le nouveau Cam Newton.
Ouais.
Le nouveau Cam Newton, c'est selon Trey Lance, quarterback de North Dakota State, donc sélectionné pour les Patriots par Mehdi. Qu'est-ce que tu lui trouves, Mehdi, toi qui es fan des Pats?
Alors déjà, c'est pas Tom Brady vu son jusque comment il joue, mais c'est alors, par contre ça pas, c'est pas sur il est pas NFL ready, mais c'est vraiment sur le potentiel. Je pense qu'il peut vraiment exploser un peu à la Patrick Mahomes qui restait un peu derrière un quarterback. Et je sais pas, je le trouve vraiment athlétique. C'est limite ça peut être un running back avec ça un peu à la Cam Newton cette année. Et sinon, il a un sacré bras. Et franchement, juste à qui travaille. Il va devoir travailler derrière un QB, on va dire, expérimenté. Mais franchement, je pense, je prends le potentiel. Et j'aurais pu prendre Mac Jones qui est prêt, voilà, un peu plus prêt. Mais franchement, Trey Lance, pour moi, c'est un peu un no-brainer du sous-potentiel.
Ouais, on va dire, ouais, alors, pour la première saison, c'est pas celui qui te rassure le plus, mais si tu dois comparer entre Lance et Jones, c'est peut-être le plafond le plus intéressant.
Ah, c'est le plafond, il est beaucoup plus élevé. C'est le jour et la nuit. Hein. Alors, Mac Jones, pour moi, au mieux, ça va être un Derek Carr. Trey Lance, ça peut peut-être devenir, peut-être pas un Cam Newton, pas un Cam Newton, pas un Patrick Mahomes, mais un Josh Allen plus. Ce serait déjà pas mal.
Très bien. Bon, bah écoute, non, bah, c'est encore une fois.
Jean-Mi, il aime pas trop, mais.
si, ça va.
Ouais. C'est un choix très polarisant, Trey Lance, encore une fois. Hein. On aime ou on n'aime pas le style. Encore une fois, on parlait de Grégory Rousseau tout à l'heure. C'est compliqué parce que Trey Lance, voilà, c'est aussi deuxième division universitaire dans une université qui a aussi l'habitude de briller. Donc après, ce n'est pas forcément le simple fait de l'université ou de l'entourage qui fait que le quarterback est bon. On a clairement vu que Trey Lance avait énormément d'atouts dans sa manche. Victor se marre quand je dis ça.
Non, c'est quarterback North Dakota State. C'est une sorte de traumatisme.
Ah bah oui, toi, tu étais vacciné, c'est pour ça.
C'est juste ça.
Non, après, alors, je vais le dire honnêtement, ce sera pas la première fois. Hein. J'ai été réservé sur Carson Wentz. Bon, malgré tout, il a quand même fait une saison quasi MVP. Hein.
Non, mais c'est sûr. Et on a parlé dans le dernier podcast de North Dakota State et d'expliquer que c'est pas vraiment une équipe deuxième division. Enfin, en tout cas, c'est une équipe qui a peut-être beaucoup plus de hype que beaucoup d'équipes de première division. Donc, c'est toujours cette étiquette deuxième division quand il s'agit de North Dakota State. C'est un peu tôt.
C'est ça. Et puis bon, après, voilà, ça reste une équipe qui reste beaucoup axée sur du jeu au sol avec une grosse ligne. Hein. Il y a quand même un beau tackle qui vient de North Dakota State, notamment
deux
cette année.
Tackle.
Oui, deux beaux tackles, mais un principalement avec Dylan Raddons. On ne sait pas s'il sera sélectionné au premier tour, mais en tout cas, c'est un nom qui y revient assez fréquemment. Donc voilà, c'est là où du côté des scouts et des franchises, il va falloir vraiment analyser si on s'appuie clairement sur cette saison 2019 ou si encore une fois, elle n'a pas été extrêmement boursouflée par le contexte Bisons. Donc, c'est là où il va falloir voir ça. Mais je rejoins ce qu'a dit Mehdi, il y a malgré tout une marge de progression assez intéressante, surtout pour une franchise qui repart quasiment de zéro, parce qu'on peut quand même supposer, oui, sans trop s'avancer, que Cam Newton à Foxborough, je pense que l'expérience va prendre fin, c'est ça mon souhait.
Ça va être fini, hein.
On termine avec la deuxième partie de cette mock draft, le 16e choix, les Arizona Cardinals, et Jean-Mi a craqué. Ce sera donc un attaquant, choix extrêmement sexy, je pense que ça va plaire aux fans des cartes qui sont sur le chat. Kyle Pitts, tight end de Florida, qui dépose ses valises du côté de Glendale. Choix extrêmement intéressant, puisque en l'occurrence, on ne cesse de le répéter, c'est quand même un tight end dans la peau d'un receveur, ou l'inverse d'ailleurs, un receveur dans la peau d'un tight end, que récupérait Cliff Kingsbury.
C'est ça, exactement. Alors, il n'est pas si mauvais que ça en bloc, hein, mais évidemment, il aura des progrès à faire. Mais c'est un receveur extraordinaire, même si c'est un tight end, c'est un receveur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de vitesse, il a des changements d'appui déroutants, il a des mains très, très fiables. Je crois qu'il a fait aucun drop à end zone. C'est vraiment dans une attaque comme celle que veut mener Cliff Kingsbury à Arizona, c'est-à-dire très verticale, avec beaucoup de jeux de passe. c'est vraiment le joueur qu'il leur faut. Je pense que s'il est disponible à 16, ils vont sprinter vers le podium. Parce que, en plus, avec un Larry Fitzgerald qui, a priori, va prendre sa retraite, voilà, tu as DeAndre Hopkins, tu ajoutes Kyle Pitts avec Kyle Murray, un plan de jeu très offensif, très vertical, très aérien. Ça peut vraiment tout déchirer dans la division de la mort.
Ouais. Apparemment, je crois qu'on est d'accord avec toi. Stepping Graal nous citait du Thierry Roland pour expliquer qu'il était d'accord avec toi. J'ai vu du Jean-Mi MVP également de la part de Mathias. Je crois que ton choix a fait l'unanimité du côté d'Arizona, même si voilà, il y a d'autres besoins, bien entendu. Voilà, il y a du cornerback éventuellement. Victor me souffle dans l'oreille qu'il y a peut-être besoin d'un running back. Mais en tout cas, c'est vraiment une cible supplémentaire. Au vu d'un DeAndre Hopkins qui a quand même fait 1400 yards et derrière, en effet, il y avait quand même un écart assez conséquent avec de mémoire, je crois que c'est Christian Kirk qui a dû finir à peu près 600. Donc, ce serait pas forcément une mauvaise idée, surtout qu'on l'a dit, Calpitz, on peut le mettre à peu près partout et à courir, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident. Donc voilà pour ce 16e choix. Avant d'enchaîner sur le 17e, notamment de Victor Roulier, juste une petite pause pour vous rappeler que la draft sur TDA, c'est aussi à l'écrit, avec le grand retour des fiches prévues à partir du 22 mars et ce jusqu'au 28 avril. 80 prospects, 40 offensifs et 40 défensifs vous seront présentés par l'équipe avec les forces, les faiblesses et les franchises préférentielles. Tout ça donc dans 5 semaines pile poil. Avant ça, il y aura sans doute le top 100, notamment pour faire une revue d'effectifs des principales forces en présence.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Donc, restez connectés sur TDA. On passe au 17e choix. Les Las Vegas Raiders sont sur l'horloge, monsieur Roulier, et ils choisissent Kwity Paye, defensive end de Michigan. Ça paraît quand même un peu urgent de mettre la main sur le quarterback adverse.
Oui, et d'abord, merci. Merci à Alexandre d'avoir choisi un futur bust pour les Vikings. Et merci à Jean-Mi d'avoir ignoré le besoin criant des Cardinals pour un edge. Donc, je suis tout content. Je récupère le meilleur edge de cette draft avec le 17e choix. On ne peut pas demander plus. Kwity Paye, c'est un phénomène physique absolument incroyable. On n'a pas vu ça depuis Von Miller, depuis ce genre de joueur-là. C'est un joueur, pour moi, c'est un potentiel énorme. Je le préfère de très loin à Grégory Rousseau, même si, évidemment, Rousseau, c'est un diamant brut et il explosera peut-être. Mais Kwity Paye, c'est vraiment... ça manque de playmaker dans la défense des Raiders. Ça manque de joueurs qui mettent le feu. Alors oui, il y a Clayden Ferrell qui était choix 4 de draft. Il y a Mac Crosby qui sont là en edge. Mais globalement, même si on pouvait imaginer renforcer cornerback ou renforcer linebacker, un tel talent disponible en 17, un vrai playmaker, comme je crois d'ailleurs que l'entraîneur a dit, on manque de, ou c'est Mayock qui a dit qu'il manquait de playmaker, bah, Là, ils récupèrent un des plus gros playmakers de la draft. Ça, c'est ce qu'il leur faut. Il faut des joueurs qui dynamisent cette défense, que cette défense, elle a été amorphe, notamment en deuxième partie de saison. Elle a besoin de leaders, elle a besoin de talent, vraiment. Et là, pour moi, c'est vraiment un choix qui ne peut pas souper.
Alors, je regarde juste rapidement sur le chat. Il y a certains qui étaient intéressés par la possibilité Micah Parsons. Alors Sylvain nous dit la bonne paye. En effet, c'était une bonne possibilité.
Alors Micah Parsons, vu ce qu'on est en train d'apprendre sur lui, je suis pas sûr qu'un Gruden ou un Mayock ait envie d'un joueur comme
on
ça.
On va en parler. Bah, il a fait venir Richie Incognito quand même. Attention, hein, ne sous-estime pas le bonhomme. Ouais. Jean-Michel, il paraît que tu as quelques attaches avec les Raiders. Qu'est-ce que tu penserais de l'arrivée d'un Kwity Paye du côté du Nevada?
Oui, je valide. Effectivement, on a besoin de mettre beaucoup plus de pression sur le quarterback adverse. Donc, Max Crosby le fait très bien, mais Clayton Ferrell, c'est plus un agitateur qui contrôle son côté. Il est bon contre la course, mais il faut quelqu'un qui mette plus de pression. Alors, c'est vrai que c'est pas le choix que j'aurais fait. Je serais plus allé vers l'intérieur, moi, notamment un petit joueur d'Alabama. Mais écoute, il paye aux Raiders, oui, je valide.
Très bien. Bah, écoutez, messieurs, on va parler tout de suite de Micah Parsons, puisque Alex s'est mouillé pour le choix des Miami Dolphins, le deuxième choix des Miami Dolphins, qui avait donc sélectionné précédemment Penei Sewell, tackle d'Oregon. Eh bien, on passe à la défense du côté de Brian Flores, avec donc Micah Parsons, linebacker de Penn State, joueur qui avait la cote, mais qui en effet a une éthique pour le moins problématique.
Oui, une sombre histoire autour de Micah Parsons qui fait qu'il est descendu jusqu'aux Dolphins en 18 et c'est pas dommage. C'est un besoin, le poste de linebacker pour les Dolphins. J'aurais pu aller vers un receveur, mais pour aider toi. Mais c'est une trop grosse opportunité. C'est vraiment un joueur avec de très très grandes qualités qui répond à tout ce dont tu as besoin, Miami, sur le second rideau. Faut pas oublier que leur coach, c'est un coach quand même défensif. La défense a besoin d'être encore renforcée malgré tous les progrès affichés cette année. Je pense que c'est le chaînon manquant dans le schéma de Flores, complémentaire avec Baker, parce qu'il serait aligné à ses côtés. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de réflexion. Personne qui descend en 18, il faut foncer.
Oui, non, très clairement. Alors, en plus, il me semble que le run stop n'était pas fabuleux non plus du côté de Miami cette année.
C'est pas le meilleur de la ligue.
Voilà. Pierre, sur le chat, nous disait tout à l'heure en effet qu'il ne restait que deux linebackers sous contrat à l'heure où on se parle. Et oui, c'est sûr que là, en effet, c'est presque la politique du meilleur joueur disponible,
C'est
même
ça,
si
exactement.
voilà, il y a des histoires, en effet. Il faisait partie, me semble-t-il, avec Kitor Grossmatos,
C'est ça,
du,
le bien
de
nommé,
différentes sessions
exactement.
de bizutage sur le campus de Penn State.
De bizutage, de harcèlement,
Il mettait ses parties intimes
d'humiliation.
là où il fallait pas les mettre, apparemment.
Ouais, il avait une tendance apparemment à mettre ses parties intimes sur ses coéquipiers. Non, je suis d'accord que c'est le meilleur team fit. Enfin, vraiment, c'est un joueur. On a l'impression que ce système est créé pour lui. Donc, je vois tout à fait Parsons évoluer au Dolphins. Il voilà, faut juste faire attention au personnage. Solak, qui est un journaliste américain, disait déjà il y a quelques mois qu'il était totalement immature. Bah, ça n'a pas l'air d'être trop faux. Donc, va falloir le canaliser.
Voilà, ça fait
Après, je
beaucoup de.
pense que Flores, c'est justement c'est le mec qui est certainement approprié pour encadrer des joueurs comme ça. Il a l'air d'avoir l'adhésion de ses joueurs et de savoir les driver. Donc, bon, il était formé aux Patriots aussi, donc ça peut l'aider. Je pense pas que ça posera de soucis.
Ah, c'est sûr, si c'était Marc Patricia et Matt Patricia, il aurait mis le feu. Mais bon, bref, ça, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour faire du bashing gratuit. Mais oui, non, non, en tout cas, c'est un choix qui est quand même assez cohérent, cette sélection de Micah Parsons du côté de Miami. Même si on a une classe de linebacker quand même assez séduisante, en règle générale, il faut voir combien on en sort dans ce premier tour. Mais voilà, Micah Parsons qui continue de tenir la corde au niveau de ce poste et qui finit donc du côté de Miami. On passe aux équipes qualifiées en playoff à présent, le 19e choix de la Washington Football Team réalisé par Mehdi. Un receveur de nouveau, Rashod Bateman, receveur de Minnesota dans la capitale fédérale. Un peu de soutien enfin pour Terry McLaurin.
Voilà, mais McLaurin était vraiment tout seul. Et il a tenu à bout de bras les squads de receveurs, mais vraiment lui tout seul. Et je pense à un de mes joueurs préférés, Bateman de la draft. Je le trouve, j'adore les receveurs polyvalents. Il peut jouer dans le slot, receveur extérieur, il n'y a pas de souci. Il est bon sur les plaquages cassés après réception. Donc franchement, ils avaient besoin d'un receveur. Après, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Il y a Rondale Moore, Kadarius Toney. Mais Bateman, c'est un peu mon coup de cœur. Pour moi, je pense qu'il fit bien avec les Redskins. Allez,
Donc ouais.
Redskins, la Washington Football Team.
On fera comme si tu seras censuré au montage, ne t'inquiète pas. Un quarterback, ça t'a pas effleuré l'esprit?
Non, je trouve pas qu'il y a un potentiel pour aller prendre un quarterback tout de suite parce que pour moi, par exemple, Mac Jones, c'est pas, je suis pas emballé. Il a pas un potentiel pour aller prendre un quarterback. Autant attendre le deuxième tour.
Très bien. Bon bah écoute. On va voir, c'est vrai qu'il y a encore Mac Jones sur notre board. Il y a encore Kyle Trask, quarterback de Florida, donc pourquoi pas
Oui, voilà, je prends
éventuellement.
Trask deuxième tour, ce serait une bonne idée peut-être, mais pas au premier.
On passe au 20e choix réalisé par les Chicago Bears. Jean-Michel, tu leur donnes un lineman offensif. Pas une mauvaise idée sur le principe. Wyatt Davis, garde d'Ohio State. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir l'unanimité au niveau du chat, hein, parce que je sais qu'il y a un autre lineman intérieur qui suscite un vif engouement. Mais Wyatt Davis, on en avait déjà parlé. Très, très beau prospect, en tout cas, qui pourrait en tout cas permettre de développer le jeu au sol des Bears, par exemple.
Exactement. Pour David Montgomery, qu'on a vu en fin d'année vraiment réaliser son potentiel. Lui, c'est Wyatt Davis, c'est un très, très bon bloqueur. En plus, il est très mobile, il est très athlétique. Alors, je n'ai pas le chat là devant les yeux, mais pour moi, c'est mon joueur intérieur préféré parce qu'il sait vraiment tout faire, à la fois défendre son quarterback, à la fois ouvrir des brèches pour la course. Et voilà, très bien formé, très bonne technique, athlétique. Il ne manque rien. Quand on voit que les Bears cette année, ils avaient Jermaine Ifedi comme garde droit, bon, ben voilà, tu as compris. Tu mets Wyatt Davis à la place et puis la ligne offensive, ça devient tout de suite autre chose. Après, pour le quarterback, moi, j'ai hésité quand même avec Matt Jones. Mais disons que je reste un petit peu sur les dernières rumeurs. Peut-être Carson Wentz, peut-être Sam Darnold ou peut-être un deuxième tour. Mais déjà en priorité, renforcer la ligne offensive.
Ouais. Et puis là, on est dans les équipes, en tout cas, les équipes qualifiées en playoff qui ont des besoins de quarterback. Pas de quarterback pour Washington. Pas de quarterback pour Chicago. Je rejoins totalement ce que tu as dit, Jean-Mi, la logique sur Wyatt Davis, ça s'entend en effet, surtout avec un Ifedi pas assez performant et agent libre. Pas de quarterback non plus pour les Colts, monsieur Roulier. Tu les vois prendre Samuel Cosmi, donc tackle de Texas, pour remplacer donc Anthony Castonzo et protéger Carson Wentz.
Et protéger Carson Wentz peut-être, mais c'est un choix très compliqué. Honnêtement, j'ai hésité là jusqu'au dernier moment parce que c'est vrai que Mac Jones, ça s'entend. Moi, je pense que c'est un peu haut. Je pense que c'est un quarterback très propre qui était dans la meilleure équipe du pays. Mais je ne vois pas devenir un franchise quarterback, honnêtement. Donc, à un moment, je me dis, voilà, Castonzo est parti. Une des forces des Colts, c'est la ligne. Autant ne pas perdre cette force. Et prendre Samuel Cosmi, qui est un excellent lineman, notamment en protection de passe. Après, oui, il va falloir trouver quelqu'un qui lance ses ballons. Alors, est-ce que ça sera au deuxième tour? Parce que des Jones, des Trask, ça peut tomber. Est-ce que ça sera un recrutement externe? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Carson Wentz, parce que Frank Reich, parce que tout ça. Je ne sais pas comment ça va finir. Mais en tout cas, honnêtement, je préfère avoir Carson Wentz, je préfère même avoir Sam Darnold et essayer de relancer qu'avoir Mac Jones. Donc, honnêtement, ou même tenter, ils ont un cap à plus savoir quoi en faire. Si vraiment les Falcons prennent un quarterback, bah, tente un Matt Ryan. Alors bon, je sais que les Falcons prendront peut-être pas autant d'aide, etc. Mais voilà, ça peut se négocier. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais Mac Jones, pour moi, n'est pas la solution, pas en 21.
Très bien. Il y a Monsieur Bisca qui lui dit quel désamour pour Jones.
C'est vrai que là, qu'il passe 19-20-21, c'est moche quand même. C'est moche.
Bah après, pour l'instant, au niveau des mocks, il n'est pas annoncé top 10 non plus. Mais c'est vrai que, bon, vu les équipes qui ont des besoins de quarterback, il partira peut-être un peu plus haut. Après, voilà.
On sait comment ça marche avec les quarterbacks. Ils gagnent toujours 10 places le jour de la draft.
Gratuitement, juste parce que c'est toi. Mais non, mais voilà. Après, on l'a dit, c'est vrai qu'il y a quand même des prospects intéressants sur le poste de receveur et sur la O-line notamment. Et ça reste quand même assez révélateur par rapport à ce qu'on a mis. C'est vrai que ce sera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, il y aura quand même pas mal de prospects de ces postes-là qu'on risque de retrouver assez haut au premier tour en l'occurrence. Mais ça s'entend, je te rejoins, c'est sûr que voilà, le besoin en tant que left tackle, de toute façon le chantier du côté d'Indy me paraît assez majoritairement en attaque, avec en effet ce besoin de quarterback, de tackle, receveur. On rappelle qu'Y. Hilton est free agent aussi, donc ce sera à surveiller, surtout qu'il commençait à être un peu en manque de production relative par rapport à ce qu'on pouvait connaître par le passé. Donc voilà, ça va être une intersaison assez intéressante et intricante à suivre à ce niveau-là du côté de l'Indiana. On passe au 22e choix, réalisé par Alex. On reste dans l'AFC Sud. Les Tennessee Titans, qui, eux, pour le coup, ont un chantier assez intéressant en défense. C'est la raison pour laquelle tu les vois prendre Joseph Osai, edge rusher de Texas, justement.
Oui, les Titans, leur problème majeur, si je peux résumer, c'est vraiment la pression sur le quarterback. Et c'est de là que découlent tous leurs problèmes, et aussi le problème, la défense contre la passe. Sans pression, les corners sont plus exposés. Donc, ils sont 30e hein, sur les sacs dans la ligue. Donc, pour moi, ils doivent pas vraiment réfléchir et il doit foncer sur le meilleur edge qui reste sur le board. Joseph Osai de Texas. Alors, il fit parfaitement avec leur schéma en 34. Maintenant, c'est un joueur qui a quand même quelques interrogations. Il a été pas mal baladé de position à Texas. Mais je pense qu'il a toutes les qualités pour pouvoir réussir dans le schéma de Vrabel, comme pendant de Landry. Donc, hormis, encore une fois, prendre à l'intérieur de la ligne et mettre la pression par l'intérieur, voilà, le chantier des Titans commence par là, la pression. Donc, moi, je pars sur Osai et je pense que Vrabel a de quoi le pousser vers son potentiel.
Bah, faut espérer en tout cas parce que ça n'a pas été très concluant avec J.D. Von Clowney qui apparemment avait fait sa meilleure saison à Houston sous les ordres de Mike Vrabel. Ça n'a pas sauté aux yeux du côté de Nashville, même si je continue de penser que J.D. Von Clowney sera mis sur un front de forme, mais ça c'est mon avis à moi personnellement. Mais non, je te rejoins, c'est sûr que de toute façon c'est vraiment l'axe prioritaire. C'est sûr que sur la ligne défensive il y a quelques besoins à signer, hein. Tu parlais notamment du besoin de mettre la pression sur l'intérieur, c'est sûr que ça va forcément être, je pense, considéré à un moment donné par les Titans. Mais ouais, de toute façon, du soutien sur le front seven, et ça passe forcément par un edge rusher capable, en effet, de... Encore plus si Trevor Lawrence est drafté par les Jaguars, ce serait bien de réussir à mettre un peu de pression sur le QB adverse.
Après, l'intérieur de la ligne, ils peuvent aussi... Il y a pas mal de free agent defensive tackle cette année, donc ils peuvent aussi se renforcer par là. Donc, ce qui sera peut-être plus dur et plus cher de trouver un edge. Donc voilà, c'est ça la logique.
Ah, pour faire plaisir à Victor, il y a Mickaël qui nous dit sur le chat les Titans en mode cogneur, doublette, Nadji Harris, Derrick Henry. Qu'est-ce que tu en penses, Victor ?
Ah, moi, je pense qu'il faut foncer. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut prendre un running back. Si vous avez le choix entre un running back et autre chose, prenez un running back. C'est une évidence. Il faut prendre le plus de running back possible.
C'est bien ce qui me semblait. Là, on a de la raison. Merci, Victor. 23e choix. Les New York Jets sont sur l'horloge. Mehdi, tu les vois justement partir sur un edge rusher de nouveau. Aziz Ojulari, edge rusher de Georgia.
Assez complet, donc très intéressant sur le edge, mais il est capable de couvrir aussi à la passe. Mais ils ont tellement de besoins, les Jets, que j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que c'est, on va dire, le meilleur choix possible, perso. Après, je serais bien parti sur un cornerback, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas un qui saute vraiment aux yeux après la triplette de devant. Donc, je pense qu'Ojulari, ça reste un bon choix, assez safe. Il va produire tout de suite en NFL.
Ouais, il faut voir encore une fois le front qui sera choisi par New York. Alors, encore une fois, voilà, c'est vrai que moi, c'est mon côté un peu limite réac, hein, parce que maintenant, aujourd'hui, les front seven sont souvent extrêmement hybrides. Donc, c'est sûr qu'avoir Aziz Ojulari, même si on a une base de 43, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Mais oui, en l'occurrence, je pense qu'il peut avoir un rôle assez similaire à ce qu'a porté un Jordan Jenkins, en beaucoup plus fort, bien entendu. Parce que Jenkins était plus un titulaire de complément. Ojulari peut vraiment être la principale menace du pass rush. Il me fait
penser un peu à... Je regarde beaucoup les Patriots, à Calvin Noy. Il est capable de couvrir, d'être bon sur la couverture et est capable d'être un très bon edge rusher. Donc après, c'est vraiment un choix du cœur.
Très bien. Un choix du cœur pour les Jets ?
Oui.
Ah, venant d'un fan de Pats, moi
j'essaie de rester objectif.
Ah, c'était la Saint-Valentin hier, mais pourtant, il y a encore des restes aujourd'hui. Bravo, Mehdi. 24e choix désormais pour les Pittsburgh Steelers. Il y a des besoins, Jean-Michel, sur la ligne offensive. En tout cas, il paraît, notamment avec la retraite de Mordecai Spansy annoncée très récemment. Et tu vas justement sur un centre venu d'Oklahoma, un certain Creed Humphrey.
C'est ça, exactement. Ben, même avant sa retraite, je pensais un petit peu à la ligne offensive. Ils avaient déjà des besoins, que ce soit en garde droit, en tackle droit. Mais là, en plus, avec la retraite de Mordecai Spansy, pour moi, c'est une évidence que premier ou deuxième tour, il faut qu'ils prennent un centre. Alors, je t'avoue que j'aime beaucoup Landon Dickerson de l'Alabama, que je trouve plus puissant. Mais le souci que j'ai avec lui, c'est toutes les petites blessures qu'il a eues depuis quelques années. Parce que tous les ans, il a une blessure. Donc, c'est pour ça que je le vois mal au premier tour. Sinon, en tant que joueur, je l'aurais bien pris, lui, tu vois. Creed Humphrey, à l'inverse, lui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très technique. C'est vraiment un centre qui connaît sa position, qui sait lire une défense, qui sait offrir une prise à deux à son guard qui s'est aussi décroché sur le second rideau. Il fait très bien d'ailleurs ça. Donc, Creed Humphrey, voilà, tu le prends et tu as ton centre pour les 10 prochaines années. En gros, ce qu'ont fait les Steelers quand ils ont pris Poncy.
Oui, non, très clairement, oui, c'est sûr que là, ça va quand même être assez important. On rappelle également, hein, ça, c'est pas forcément en lien avec Humphrey, mais en tout cas, que la ligne offensive, c'est préoccupant aussi de par le statut d'agent libre d'Alejandro Villanueva.
Oui, je pense qu'ils vont le re-signer, excuse-moi, mais c'est ce que j'ai pensé. Ouais.
Mais en tout cas, voilà, il y a quand même. Ça va être difficile, en tout cas, de signer tout le monde par la free agency pour réussir à renforcer tout ça. Donc, c'est aussi dans cette logique-là que ce ne serait pas étonnant de voir les Steelers, en effet, dégainer sur la O-line dès le premier tour de la draft. Donc, Creed Humphrey, en l'occurrence, dans une classe qui reste extrêmement homogène. Les linemen intérieurs, en l'occurrence, ce serait forcément une bonne chose. Je vois Stephen Graal qui nous dit excellent choix. Sous-côté Humphrey, c'est vrai que ça varie un petit peu en fonction des cas de figure. C'est vrai qu'il y a aussi ce fameux système d'Oklahoma, mais en l'occurrence, ouais, c'est sûr que c'est un joueur qui est hyper performant depuis sa saison freshman chez les Sooners. On sait que des linemen offensifs, voilà, il y en a quand même eu des très performants qui sont passés du côté de Norman ces dernières années. Donc voilà, ça prouve la valeur du bonhomme et à quel point il a su s'aguerrir dans le système offensif d'Oklahoma. Juste avant de terminer ce premier tour, une dernière précision sur le programme draft à venir sur les antennes de TDA, avec, vous l'avez sans doute vu sur l'article programmation du printemps, une nouvelle chronique quotidienne qui s'en vient à partir de fin mars. 32 jours pour 32 preview draft. Chaque jour, on analysera dans une capsule audio les impératifs des différentes franchises au lendemain de la Free Agency, histoire d'avoir une idée des dernières priorités des uns et des autres pour les premiers tours. Sachez aussi que deux nouvelles mock draft live sont en prévision. La première aux alentours du 25 mars, encore à déterminer. La deuxième, donc bien entendu, comme l'année passée, la veille de la draft, soit le 28 avril. Je ne parle même pas du live draft annuel prévu le 29 pour le premier tour en direct. Et là encore, à confirmer le deuxième et troisième tour prévu le 30 avril prochain. Un bien beau programme en prévision. Le 25e choix à présent, réalisé par Victor.
Il y a du live en pagaille. Je suis Jaguar CFR aujourd'hui.
De quoi?
C'est oui. La deuxième fois que je fais Jaguars.
Oui, bah oui, tout à fait. Ouais. Les Jaguars, et ouais, la ligne offensive est en force hein, sur ce premier tour. C'est incroyable. Il y a besoin de protéger Trevor Lawrence. Du coup, un lineman de USC, Elijah Vera Tucker, pour jouer où?
Pour jouer où? Pour jouer tackle, à mon avis, et au pire, guard. Et si ça devient un des meilleurs guards de la ligue, ça sera déjà bien pour un 25. En fait, honnêtement, j'avais l'esprit assez ouvert en 25. Dans l'idée, c'était entourer Lawrence. Mais ça pouvait être une cible, ça pouvait être une protection. C'est vrai que là, j'ai l'impression de faire que des linemen, un peu comme la dernière mock. Mais il faut dire, il y a tellement de talent à ce poste-là cette année que c'est des joueurs qu'on a envie de prendre. Et j'ai pris le meilleur joueur disponible pour moi, meilleur joueur offensif disponible. Et pour moi, c'était Vera Tucker. C'est un joueur très polyvalent. Il a prouvé à USC qu'il était excellent en guard et a prouvé cette année qu'il était excellent en tackle. C'est un diamant brut. C'est un joueur qui a explosé cette année, hein, parce qu'on en parlait l'année dernière, mais enfin peut-être moins qu'on peut en parler aujourd'hui. Il est constant. Il est constant. On a l'impression qu'il ne fait jamais de mauvais snap. Alors, c'est peut-être pas le plus impressionnant. C'est pas une machine à highlight, mais... je pense que Lawrence sera très content d'être protégé par lui. Et ma foi, la QV de receveur et de running back est tellement profonde que des tours d'après pourront permettre de rajouter des cibles à Lawrence. Donc, en priorité, ça sera le protégé.
Ouais, je pense que c'est assez d'accord sur Vera Tucker. Encore une fois, c'est un joueur dont la cote grimpe énormément.
Ouais.
J'avoue que les réserves sont assez minimes le concernant. Peut-être je trouve un certain manque de réactivité sur des contres, mais ça, franchement, c'est pas non plus. Je pense pas que ce soit le seul lineman, encore plus quand on est un lineman intérieur qui a été décalé en tackle gauche, qui est peut-être ce genre de souci. Et je pense
oui,
que c'est largement perfectible.
Hein, il nécessitera un peu de coaching, hein, ça
c'est
sûr.
Pour ça. C'est pour ça. C'est la O-line de USC, mine de rien, il y a eu beaucoup d'expérimentations, mine de rien, ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on a un petit peu baladé aussi Vera Tucker, un peu sur le modèle d'un Alex Leverwood, par exemple,
oui,
à Alabama.
Exactement.
On l'a beaucoup baladé partout. Et c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui d'identifier clairement là où il sera le plus performant, même si on voit qu'il y a une base, en effet, sur laquelle on peut clairement s'appuyer pour en faire un solide titulaire en NFL. On passe au 26e choix. On retourne en défense, les Green Bay Packers. Et Alex, l'heure est grave. Tu les vois donc retourner en défense. Enfin, choisir en tout cas un défenseur.
C'est les Cleveland Browns, hein, par contre.
C'est les Cleveland Browns ? Oui. Ah, je me suis fait piéger par son logo. Pardon, autant pour moi. Désolé. Mais tu sélectionneras les Packers tout à l'heure, Alex. Si
non,
j'ai
c'est
moi,
c'est pas moi.
C'est pas toi non plus. Oh là là, le mec qui est pas à jour sur ses fiches, c'est incroyable.
Je critiquerai, moi, seulement.
Alors, on l'a refait, ceci sera coupé au montage. Le 26e choix pour les Cleveland Browns. Monsieur Locke, donc les Cleveland Browns qui sélectionnent un linebacker. C'est vrai qu'on n'en a plus trop parlé, notamment depuis Micah Parsons. Zaven Collins, linebacker de Tulsa, qui prendrait la direction de l'Ohio pour renforcer un poste à besoin.
Oui, c'est un poste à besoin pour les Browns, le second rideau en général. J'aurais pu aussi regarder du côté des Edge avec un pendant qui serait nécessaire à Myles Garrett, mais vraiment, le second rideau, c'est là où ils ont le plus besoin de renfort. Malcolm Smith est en fin de contrat, B.J. Goodson est en fin de contrat. L'avantage de Collins, c'est vraiment un joueur qui est polyvalent, il y a un gros potentiel. Il a été vraiment, on a vu ses progrès toute la saison. Il peut jouer, il est plutôt correct, très correct contre la course. Il est bon sur la couverture, il sait blitzer. C'est vraiment un homme à tout faire et c'est certainement ce dont ont besoin les Browns sur ce second rideau. Ils ont une ligne défensive qui est plutôt pas mal. Ils ont un second rideau jeune mais qui a du potentiel. Par contre, au milieu, entre les deux, ça pose quand même pas mal de questions. Et Zaven Collins en 26, c'est une belle opportunité, je pense, surtout avec ce profil polyvalent et homme à tout faire.
Ouais, très clairement, encore une fois, tu le disais, c'est un profil vraiment extrêmement hybride. Pour le coordinateur Joe Wood. Alors, je voyais tout à l'heure Charles nous parlait de Christian Barmore. Sylvain, il nous en parle pour les Ravens. Christian Barmore, ça va être le petit point d'interrogation, mais tu le disais, la ligne défensive, ça peut être un point d'interrogation. On sait que Larry Ogunjobi est agent libre, que Sheldon Richardson va commencer à coûter un peu cher. Après, c'est pas forcément pour ça que les Browns vont se précipiter dessus, surtout qu'il y a peut-être un peu plus de profondeur au deuxième tour. Qu'au premier en l'occurrence, et c'est vrai que là, si on prend la politique du meilleur joueur disponible, notamment en défense, ça a fait plus, il y a plus de logique, je pense, à partir sur un Collins que sur un Barmore en l'occurrence.
Puis sur la ligne, ils ont drafté l'année dernière Jordan Elliott qui je continue à penser qu'il est prometteur, donc ouais. Oui, a priori ils sont quand même plus dépeuplés sur le second rideau que sur la ligne défensive.
Très non, mais dis-le, tu espères qu'en fait Barmore il va tomber aux Packers?
Ouais, c'est ce. Non. On verra.
Ah, pour être remplaçant de JJ Watt.
Comme on va signer JJ Watt, on aura moins besoin de Barmore.
C'est ça. On passe désormais aux Ravens. Là, normalement, je ne me suis pas trompé sur mes fiches. Donc, on reste dans la FC Nord avec le choix de Mehdi. Encore un receveur. Mehdi, tu es déchaîné sur les receveurs. En même temps, c'est une belle classe. En l'occurrence, avec donc, le receveur de Purdue. Rondell Moore que tu vois arriver dans le Maryland, petit receveur supersonique, est-ce que ça ne fait pas doublon avec Marquise Brown?
Ça fait doublon peut-être, mais comme Marquise Brown, l'expérience elle n'est pas très, elle est pas bonne, quoi. Je n'ai pas l'impression qu'il soit devenu vraiment le receveur numéro 1. Peut-être une doublette de receveurs hyper rapides, un peu comme les Chiefs qu'ils ont avec Hardman et Hill. Je pense que ça peut être très intéressant. Après, je pense qu'ils partiront sur un receveur, mais Rondell Moore, ouais, un petit coup de cœur aussi. Très explosif, les yards après la réception. Donc après, vu l'attaque des Ravens, je pense que un petit receveur rapide, ça va parfaitement. Ça va même créer plusieurs, on va dire, des petites formations très intéressantes avec plusieurs screens, plusieurs read options.
Ça, en l'occurrence, oui, c'est sûr que ça ne varierait pas les profils, mais en tout cas, on continuerait d'être sur l'attaque. Hyper speed des Ravens qu'on voit depuis quasiment 2 ans. Donc, il y aurait malgré tout une forme de logique. Encore une fois, il y a d'autres profils qu'on peut voir. Mais par rapport à l'autre joueur dont nous parlait Jean-Michel, voilà, il y a des profils dans cette fin de premier tour au poste de receveur où il n'y a pas forcément que du gros gabarit capable d'être vraiment menaçant sur jeu profond. Donc, on va peut-être plus s'en remettre à des speedsters. Alors, je sais que M. Biscay, du coup, lui voyait peut-être plus un lineman pour les Ravens. Il va plus en rester beaucoup, on en a sorti beaucoup, mine de rien, déjà.
Il en reste quand même. Hein.
Mais oui, il en reste. Je sais que Jean-Michel parlait de London Dickerson tout à l'heure, c'est une possibilité, bien entendu. Et oui, au niveau des tackles, je parlais de Dylan Raddons tout à l'heure, peut-être en tackle droit s'il laisse partir Orlando Brown, mais en tout cas, on reste encore sur l'instant T. Mais oui, il va peut-être y avoir besoin de linemen de par les soucis dans ce secteur-là des Ravens l'année passée, mais receveur, ça reste également un besoin assez important et ça a été assez criant sur certains moments de la saison du côté des Ravens. Jean-Michel, je disais, un autre receveur en choix numéro 28 pour les New Orleans Saints, en l'occurrence, tu les vois choisir Kadarius Toney, receveur de Florida. Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion?
J'hésitais avec un défenseur, notamment un petit chouchou, Jeremiah Owusu-Koramoah, mais ils ont déjà trois linebackers. Donc, j'ai surtout pensé à la dernière saison de Drew Brees et de me dire, voilà, tu ajoutes un joueur aussi explosif que Kadarius Toney, que ce soit pour attaquer la profondeur, que ce soit pour des jeux feintés dont Sean Payton est très friand, tous ces jeux de sweep, toutes ces slants qu'il peut lancer. Kadarius Toney a des mains fiables, Kadarius Toney peut gagner beaucoup de yards après réception. On a vu aussi les incertitudes avec Michael Thomas cette année. Donc, si jamais Thomas y revient avec Kamara, avec Sanders, tu ajoutes Toney, je pense que pour la dernière saison de Drew Brees, ça peut aller chatouiller les Bucks. Donc, c'était ça, en fait, l'idée.
Donc, tu vois Drew Brees revenir?
Oui, c'est ça.
Ah oui. Ouais, ouais.
Il a stretch,
oh, la
il
bombe qui nous lâche en fin de premier tour.
Il a stretch son contrat, ça veut juste dire qu'il va prendre sa retraite. Il a juste fait un cadeau avant de partir, hein, à mon avis.
Bon, bah, le pro, sans Jamis, alors.
Ouais, ah, oui, bah, il est free agent, mais oui,
bon,
forcément.
C'est pas Taysom Hill, le quarterback.
Non,
c'est
non,
ouais.
Taysom Hill, il est Tayen. Non, mais Winston, c'est largement meilleur que Drew Brees, mais ils n'oseront pas le faire.
Non, c'est sûr. Par contre, juste, je réponds à la question de Guillaume tout à l'heure concernant les Ravens, qui nous disait si les Steelers et les Jaguars ne sélectionnent pas de linemen, est-ce que les Ravens peuvent sauter dessus? Clairement, hein, je pense qu'il y a possibilité, en effet, que Baltimore choisisse cette possibilité, mais c'est sûr qu'on a quand même égrené pas mal de linemen, notamment intérieurs, et que bon, après, on en revient forcément à cette politique du meilleur joueur disponible. Rondale Moore reste un profil extrêmement intriguant, de même que Kadarius Toney, dans une équipe des Saints qui reste quand même assez complète. Malgré tout, on sait qu'il y a un cap qui est un peu délicat, il y a peut-être un backfield défensif qui va être à considérer, mais on ne sait pas ce qu'ils font à la free agency. Ils arrivent à signer des joueurs... avec de l'argent qui sort d'on ne sait où. Mais en tout cas, non, voilà, blague à part, c'est sûr que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de rajouter une menace supplémentaire au niveau de ce jeu aérien, surtout que je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Sanders ne soit pas free agent l'année prochaine. Donc, tu aurais d'ores et déjà ton receveur numéro 2 en préparation. Les quatre derniers choix, messieurs, de ce premier tour, le 29e choix, et là, je ne vais pas me tromper, les Green Bay Packers sont sur l'horloge, sélectionnés par Victor Roulier. Il me semble qu'on a entendu ce nom tout à l'heure. Le nouveau backup donc, de J.J. Watt a été sélectionné par Victor. Christian Barmore, lineman défensif d'Alabama. Pourquoi ce choix, Victor? Alex, t'écoute.
Pourquoi ce choix? Bah, parce que déjà, J.J. Watt, il va rejoindre sa femme à Chicago, parce que sa femme, ça fait 10 ans qu'elle l'attend. Il va bien y aller quand même à un moment.
Oh, le troller. Ouais. Et donc
okay, puisqu'elle est joueuse là-bas, pour ceux qui se posent la question. Non, je pense que globalement, on a vu l'année dernière que Kenny Clark, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans cette défense. Il manque un joueur qui puisse aider. Alors certes, contre la course, c'est ce que beaucoup ont vu dans la saison, mais aussi contre la passe. Je pense qu'il y a des joueurs, il y a du talent, il y a du Preston Smith, enfin il y a deux Smith même, il y a Gary, etc. Mais ça manque d'un joueur vraiment complémentaire à Kenny Clark pour solidifier l'intérieur. Et Christian Barmore, moi je trouve que finalement au niveau de la value, il a fait une très bonne deuxième partie de saison après avoir loupé un peu son début de saison. Et je pense que là, c'est une très bonne valeur. C'est une très bonne valeur à ce moment-là de la draft. On aurait pu partir sur receveur, mais je n'ai pas l'impression que ça soit tant de priorité que ça. Alors, je sais que beaucoup voient les receveurs pour les Packers. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit tant de priorité que ça. Et il y a une draft profonde. Je n'ai pas voulu surréagir à la finale de conférence en prenant un cornerback. Donc, voilà. J'ai pris celui qui, pour moi, répondait aux besoins le plus criant d'équipe.
Sylvain nous dit peut-être un autre quarterback aux Packers pour énerver encore Aaron Rodgers.
Ouais, ouais, c'est ça. Ils en prennent un tous les ans. Comme...
Alex, dis-nous tout.
Non, je suis plutôt d'accord avec le choix de Victor. Barmore, c'est mon Oui, c'est mon choix numéro un depuis des semaines déjà. Alors, c'est vrai que si on intègre JJ Watt à l'équation, parce qu'on fait partie des. Les Packers sont partie des équipes intéressées, ça pourrait changer, mais ils n'ont pas quand même le même profil. Et donc, bon, moi, je ne serais pas du tout contre avoir les deux. Comme le dit Victor aussi, le receveur, c'est finalement pas tant la priorité que ça. Avec le corps qu'on a aujourd'hui, on est quand même arrivé en finale de conférence et on a fait partie des meilleures attaques. Il y a des bons profils au troisième et quatrième tour. Donc, non, non, la défense contre la course et la ligne, voilà, effectivement, de l'aide à Kenny Clark, c'est vraiment l'axe principal de renfort.
Très clairement.
Corner aussi. Même sans parler de la finale de conférence, on pourrait regarder corner. Mais il y en a au deuxième tour.
J'étais en train de penser, il y en a un en l'occurrence qui a déjà été drafté, mais s'il descend, Micah Parsons qui joue avec Kingsley Kiki, moi je veux bien, je demande à voir. Bref, sur cette mauvaise vanne, le 30e choix des Buffalo Bills, et ça y est, monsieur Roulier, il est arrivé, le running back de ce premier tour sélectionné par Alexandre.
Je
Ils ont
quitte ce
décidé de se
stream.
faire la guerre,
Merci
les
à
deux.
tous. Au revoir.
Ils se cherchent aujourd'hui. Donc, ouais, les Buffalo Bills qui sélectionnent un coureur pour mettre un peu de concurrence sur Devin Singletary. Travis Etienne, running back de Clemson. Pourquoi lui et pas Najee Harris, du coup?
Bon, déjà, je voulais mettre un petit peu de sel en cette fin de premier tour pour qu'on puisse en débattre. Mais les Bills, ils ont trois besoins. Linebacker. Mais pour moi, Milo, qui est free agent, je pense qu'il va rester. Tackle, donc j'aurais pu. Le choix de la raison, ça aurait été de prendre un tackle avec Darryl Williams, qui est aussi free agent, et c'est pas du tout sûr qu'ils aient les moyens de le prolonger. Mais un coureur, pour l'attaque, cette attaque qu'on a découverte explosive cette année, ça serait pas mal parce que Singletary, il a quand même pas confirmé ce que moi je pensais, enfin, je pensais qu'il avait plus de potentiel. Pour l'instant, ça reste quand même assez discret. Moss, c'est pas mal, c'est intéressant pour une première année. Du coup, Étienne, pour moi, c'est le bon complément à Moss. Si j'écarte déjà un petit peu Singletary, il peut apporter aussi sur le jeu de passe. Et je pense que pour l'attaque de Dabble et pour Josh Allen, un gros jeu de course, ce n'est qu'un atout supplémentaire. Ils ont, voilà, il y a quelques autres touches nécessaires dans cette équipe, mais je les imagine quasiment inarrêtables avec un joueur comme Etienne en 2021.
Très bien, ça s'entend en l'occurrence. Oui, c'est sûr que ça va être un besoin, franchement, cette attaque. Tu parlais de la O-line tout à l'heure, mais c'est vrai que les retouches ont pas besoin d'être nombreuses du côté de cette offense. C'est quand même pas mal tourné, qui pourrait débloquer du cap d'ailleurs en cuttant John Brown par exemple sur le poste de receveur, hein, vu qu'ils ont un peu de profondeur là-dessus. Donc ça pourrait laisser une marge de manœuvre justement pour rectifier un petit peu la O-line. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, maintenant, Travis Etienne, ça peut mettre un petit peu de concurrence, une concurrence saine, en l'occurrence, dans cette attaque des Bills pour éventuellement franchir ce fameux palier supplémentaire qui pourrait les emmener jusqu'au Super Bowl. Donc, voilà. Globalement, ça part pas trop de Najee Harris. Hein. C'était assez d'accord. Charles qui nous dit un linebacker peut-être pour les Bills. J'ai loupé un épisode. Je ne suis pas sûr que Matt Milano soit air-signé.
Non,
Je suis
non,
passé à
non,
côté.
non, il est free
il est pas
agent, mais
signé.
pour moi, il va rester. Je pense qu'ils vont le garder parce que son
Je
binôme
pense aussi, ouais.
avec Edmonds, il est vraiment intéressant. Il a été gêné par les blessures un peu en début de saison, mais on a vu que dès qu'il est revenu en forme, la défense, elle est montée en régime. Donc, je vois pas pourquoi il le laisserait partir. Ça serait. Même s'ils vont devoir le payer un petit peu, je pense qu'il faut le garder.
Ouais, c'est quand même un linebacker extrêmement polyvalent qui, je pense, ne manquera pas de propositions dans la NFL
Non, c'est
actuelle.
clair.
On termine avec les équipes participantes au Super Bowl. Les Kansas City Chiefs tout d'abord. Et Mehdi sélectionne un tackle, celui d'Oklahoma State, Tevin Jenkins. Enfin, un tackle qui restera en forme, mon cher Mehdi.
J'espère pour les Chiefs, parce qu'on l'a vu au Super Bowl, le besoin numéro un des Chiefs, c'est de renforcer l'O-line. Donc lui, il a les mains violentes, hein, imposant au niveau de l'athlétisme, très très violent même. Et franchement, je pense au moins, déjà de base, apporter de la profondeur au poste, et après, peut-être devenir titulaire, mais ils en ont besoin. Que ce soit à l'intérieur de la ligne ou à l'extérieur, il faut qu'ils renforcent la ligne offensive.
Ouais, non, très clairement. Là, encore une fois, on reste sur les tackles extrêmement performants dans de nombreux domaines. Dans de nombreux domaines, pardon. Mehdi le disait, c'est vrai que c'est un joueur qui lui aussi a une cote quand même, qui grandit à vue d'œil, qui commence vraiment à s'imposer comme un potentiel début deuxième, fin de premier tour. Et c'est vrai qu'il a peut-être ce potentiel à terme pour passer côté gauche, même si on le voit un petit peu plus du côté d'Oklahoma State, côté droit. Oui, il a quand même une polyvalence assez salvatrice pour être performant en NFL dans les années à venir. Dernier choix, dès à présent, messieurs, il faut que je retrouve mon choix, bien entendu, le choix des Tampa Bay Buccaneers. Ah voilà, je me disais bien qu'il l'avait envoyé au dernier moment. Il me fait des feintes, Jean-Michel. Les Tampa Bay Buccaneers, avec le 32e choix, sélectionnent un lineman défensif, Levi Onwuzurike de Washington. Un nouveau joueur pour prendre la suite, par exemple, d'Andamu Kongsu.
Voilà, exactement. J'ai envoyé au dernier moment, il y avait beaucoup de possibilités. Tu vois, il y a la montée David qui est free agent, donc Owusu Koramoa est intéressant. Il y avait, pourquoi pas, Najee Harris pour remplacer Leonard Fournette. Mais je pense que la défense des Bucks a gagné le Super Bowl, oui, avec Tom Brady et les cibles, mais surtout par leur défense, on l'a bien vu. Ndamukong Suh, à son âge, à son contrat, il y a déjà Shaquille Barrett à re-signer. Je pense que ce sera lui la priorité et non pas Suh. Donc, renforcer la ligne défensive avec un joueur très pénétrant. C'est-à-dire que tu as toujours Vita Vea à l'intérieur et puis tu mets quelqu'un de beaucoup plus agile à ses côtés et ça continue à avoir une défense très féroce avec le joueur de Washington au nom imprononçable.
Ouais, c'est ça. Bah, passer d'Ndamukong à Onwuzurike,
ouais,
ils vont continuer à être imbattables.
Ouais, bien vu, ouais.
On continue de se régaler, ça c'est sûr et certain. Alors, on nous posait la question, il y a Flo07 notamment qui nous dit 0 safety au premier tour. Alors, c'est pas lié au pic en lui-même des Bucks, mais c'est vrai que voilà, c'est encore un sujet un petit peu particulier, les safety.
Mais tu vois, justement, ça faisait partie de mes hésitations. J'aime beaucoup Trevon Morrig, et c'est vrai que si tu imagines un duo entre Trevon Morrig et Antoine Winfield, ça serait mais extraordinaire. Par contre, je trouve que les deux ont finalement quelques similitudes, et puis ils ont également d'autres safety qui sont corrects, comme Whitehead, comme Edwards. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai zappé. Mais effectivement, Flo, Morrig au premier tour, je ne serais pas surpris du tout, au contraire.
Et le poste de safety ces dernières années, hein, on voit bien que sa valeur diminue entre guillemets à draft, puisqu'on voit de plus en plus des premiers tours où les safeties sont absents. Et c'est vrai que Morrig est certainement seul aujourd'hui à pouvoir postuler au premier tour, mais la position est moins valorisée qu'à une autre époque. Mais après tout, si on prend un running back, on peut tout prendre. Mais je pense que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué d'imaginer safety. Et en effet, avec Antoine Winfield, ça fait un peu doublon.
Je ne répondrai pas au troll, mais bon, c'est quand même un peu paradoxal. Oui, c'est vrai, quand on voit que dans les deux derniers vainqueurs du Super Bowl, on a par exemple un Tyrann Mathieu chez les Chiefs ou un Antoine Winfield, en l'occurrence, qui a quand même pris de l'importance au fur et à mesure de la saison. Voilà, ça ne nécessite pas forcément un top 10, très clairement. Mais je te rejoins. Malheureusement, je n'ai pas la sensation que ce soit que de cette année, le côté négligence des safety. Mais là encore, ce n'est pas le sujet du jour. Voilà en tout cas pour ce premier tour, messieurs. Je vais rappeler très rapidement les choix donc, qui ont été faits, même si vous pouvez le voir sur la droite de votre écran. On a donc Trevor Lawrence, quarterback du côté des Jaguars, Zach Wilson, quarterback chez les Jets, Penei Sewell, tackle chez les Dolphins, Justin Fields, quarterback du côté d'Atlanta, Rashawn Slater, tackle sélectionné par les Bengals, Jamar Chase, receveur aux Eagles, autre receveur, Devonta Smith du côté des Lions, et Christian Dariso, tackle chez les Panthers. On a ensuite continué avec les défenseurs, Caleb Forley, cornerback à Denver, et Patrick Surtain, cornerback à Dallas. Un autre cornerback, c'est J.C. Horn qui avait été sélectionné par San Francisco juste après Jalen Waddle, receveur des Giants, Gregory Rousseau, edge rusher du côté de Minnesota, Trey Lance, quarterback à New England, Kyle Pitts, tight end sélectionné par Arizona. Et puis pour la deuxième partie de cette draft, on avait donc Quitty Pay, edge rusher à Las Vegas. On les aura tous faits aujourd'hui. Micah Parsons, linebacker du côté de Miami. Rashad Bateman, receveur à Washington. Wyatt Davis, lineman intérieur à Chicago. Samuel Cosmi, tackle d'Indianapolis. Joseph Osai, edge rusher à Tennessee. Autre edge rusher, Azizo Djouleri du côté des Jets. Et puis pour terminer, donc Creed Humphrey, centre du côté de Pittsburgh. Alijah Vera Tucker, lineman intérieur, ou en tout cas lineman tout court, du côté de Jacksonville, Zaven Collins, linebacker, du côté de Cleveland, Rondell Moore et Kadarius Toney, les receveurs sélectionnés respectivement par Baltimore et New Orleans, Christian Barmore, lineman défensif à Green Bay, Travis Etienne, running back à Buffalo, Tevin Jenkins, tackle à Kansas City, et Levi Onwuzurike, lineman défensif à Tampa Bay.
Tu nous as sauté Liam Eikenberg aux Chargers.
Oh là là, la boulette, la boulette.
Il a bien fait.
Comme par hasard. Liam Eikenberg, en effet, tackle, sélectionné en 13e choix. Parler Los Angeles Chargers, pas de Mac Jones, pas de Jeremiah ou Wusukoramoa.
Oui, c'est surtout ça. C'est surtout
des choix sont assumés, messieurs.
Ah, mais à mon avis, par contre...
N'hésitez pas à vous lâcher sur le chat.
Jeremiah Owusu, il passe pas le 35-36. Hein, à mon
oui,
avis,
je pense pas non plus. Ouais. Si déjà, il passe le 25, je pense que ce sera...
C'est
ce
assez
sera
incroyable
beau.
Que ce soit descendu aussi. Bien.
Alors, juste pour répondre à Flo 07, hein, bon, après, on va se quitter parce que, bon, mine de rien, on en a une heure et demie de live. Marvin Wilson n'est plus un premier tour, ça fait un moment que sa cote est quand même un petit peu descendue. Voilà, il y a eu des petits problèmes extrasportifs, enfin, en tout cas des problèmes, on dira, de vestiaire du côté de Florida State, des problèmes de blessures également. Voilà, on dira que c'est, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais c'est peut-être un de ceux qui aura mieux fait de se mettre en retrait par rapport à la crise Covid, parce que ouais, cette saison a laissé beaucoup de traces au niveau de sa cote auprès des franchises NFL. On a fait le temps, on a fait le tour donc sur ce premier tour et cette deuxième mock draft 2021. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Hein. On a flirté entre les 250 et les 300 personnes sur le chat. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été en notre compagnie. Encore une fois, je m'excuse s'il y a des questions que je n'ai pas vues parce que c'est encore compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Merci à vous également, messieurs. J'en profite pour rappeler vos comptes Twitter hein, pour ceux qui voudraient vous suivre. Donc Jean-Michel, c'est Zappa13009. Victor Roulier tout attaché avec un R majuscule je crois, mais bon on te retrouve facilement je pense si on tape Victor Roulier. Alexandre _ TDA, Mehdi _ Julien, Camille Saraben également tout attaché pour notre camarade de la technique que je remercie de nouveau, et Yellow Radio Sa pour me suivre également sur les réseaux sociaux. L'actualité draft continue de battre son plein sur TDA. Rendez-vous dès cette semaine pour le podcast hebdomadaire avec, donc si j'ai bien compris, Victor et Jean-Michel.
C'est ça.
Oui. Et on va parler tackle.
On va parler tackle. On va aussi parler des New York Giants et des San Francisco 49ers, deux grosses fanbases.
C'est ça.
Donc, émission à ne surtout pas manquer. Merci encore, messieurs. Très bonne soirée à tous. Et à très vite sur Ta Jeune Actu. Ciao.
Ciao.
Merci, au revoir.
Au revoir. Bonne soirée.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.